Chapitre 2. Ce fut jadis chez Loukomski, un sculpteur polonais, que Louise avait rencontré Alexandre Aftalion, le père de Nicolas. Depuis que Bilia, de son vrai nom Billet, avait affirmé que le sculpteur était un génie, elle s'était déjà rendue deux fois chez ce Loukomski. Il recevait alors les gens les plus divers dans son atelier de la rue d'Alésia. C'était une vaste pièce dont la toiture de verre était masquée par des toiles gonflées de poussière. Des bas-reliefs représentant des scènes allégoriques, des bustes dont les visages grimaçaient, des statues dont les chevelures volaient au vent, dont les vêtements de plâtre se soulevaient ainsi que des écharpes, car c'était sa spécialité que d'entourer ses œuvres d'art d'un vent violent, encombrait l'atelier. Dans la soupente, comme sur une scène drapée de velours noir, un harmonium faisait entendre des chants d'église. Loukomski se plaisait à raconter son histoire. Comme Caruso, comme Inaudi, il avait été berger. Un jour, un banquier anglais de passage avait remarqué les bibelots qu'il sculptait dans du bois et l'avait acheté à ses parents. Depuis, il lui versait chaque mois une mensualité à la condition que le droit de choisir dans les œuvres du sculpteur lui fût réservé. Loukomski affirmait ne pouvoir travailler que dans une sorte d'extase. Se vêtir de broderies étincelantes lui était nécessaire. Parfois, il faisait des courses ainsi accoutrées, suivi par tous les gamins du voisinage, à qui, tous les 10 mètres, il lançait quelques sous. Une idée lui passait-elle par la tête qu'il la mettait immédiatement à exécution. Un jour, il se peignait le corps tout entier avec de la dorure et travaillait ainsi. Un autre, il recevait des camarades en leur enjoignant de se taire, et tout à coup, il leur criait « Allez, allez, hurlez, hurlez, c'est une arène ici, regardez César !» Et il montrait l'harmonium. Ce n'était pas seulement quand il était entouré d'amis qu'il agissait ainsi. Seul, il se livrait aux mêmes écarts. La nuit, il s'imposait de rester des heures dans une attitude de profonde méditation, bien qu'ainsi il s'ennuyât à mourir. Aussi, quand par hasard, un camarade quelconque le surprenait dans cette posture, ne se sentait-il plus de joie. En se levant, il disait « Adieu, inspiration, bonjour, ami !» Et il se mettait à danser, à sauter, tellement il était heureux d'avoir été surpris en train de méditer et de pouvoir se délasser. Louise Perrier avait eu à ce moment 22 ans. Son père dirigeait une importante fabrique d'articles de caoutchouc. Depuis la mode des talons tournants, il avait fait modifier ses machines et en fournissait à toute la France. Ses deux frères, Charles et Marc, étaient plus jeunes de 7 et 8 ans. Quant à sa sœur Thérèse, l'aînée, elle avait 23 ans. Déjà, plusieurs côtés de son caractère rendaient Louise différente des autres jeunes filles. Cependant que Thérèse faisait montre d'esprit pratique, elle, au contraire, se désintéressait de tout et vivait repliée sur elle-même. Pour un rien, elle éclatait de rire ou se mettait à sangloter. Nerveuse et autoritaire, elle ne pouvait supporter la moindre contrariété. Elle jouait un peu de piano, mais d'une manière si saccadée que ses professeurs désespéraient de lui faire faire quelques progrès. Il y avait en elle quelque chose de pur et de farouche. Lorsqu'un homme la regardait avec un peu trop d'insistance, elle lui tournait brusquement le dos en haussant les épaules. Puis, quand les circonstances faisaient qu'elle avait à lui adresser la parole, elle ne se souvenait même plus de son geste. Jamais une plaisanterie ou un mot d'esprit ne la déridait. Ce qui provoquait chez elle des éclats de rire était toujours inattendu. Sa mère, assez commune, ses frères bruyants et batailleurs, sa sœur égoïste et coquette, ne manquaient jamais alors de déclencher les moqueries et de la froisser. Un jeu consistait, à la maison, à rire à propos de rien. La famille Perrier habitait une propriété située boulevard Jourdan, toute proche de la porte d'Orléans et de l'usine de son père qui se trouvait à Montrouge. Ce boulevard longeait les fortifications où les frères de Louise allaient jouer sur les talus et demander à la porte des casernes des biscuits de soldats. Celle-ci était d'une pudeur extraordinaire et d'une timidité qui contrastait avec le sang-gêne des siens. À la moindre observation, elle boudait durant des jours. C'était pour son père qu'elle avait le plus d'affection. Devant lui, son visage rayonnait. Elle devenait douce et prévenante. Pourtant, il arrivait parfois qu'un geste ou qu'une parole la blessât. Une lueur passait alors dans ses yeux. Elle ne parlait plus et ne songeait qu'à gagner sa chambre. Mais l'amour qu'elle avait pour son père était le plus fort. Aussi, se dominant, restait-elle à son côté. Par certains traits, il ressemblait à sa fille. Depuis que l'ambition l'avait poussé à lancer en France le talon tournant, dont il avait obtenu d'une maison allemande le brevet, il était devenu triste et inquiet. Il craignait continuellement que ce talon ne cessât de se vendre et de penser que sa propriété, les dots de ses filles, le bonheur des siens, reposaient sur un goût du public, le rendaient malade. Il avait horreur des hommes, et l'idée qu'il était à leur merci, qu'un caprice de leur part pouvait le ruiner, le tracassait sans cesse. À tout instant, il croyait remarquer des signes de lassitude dans sa clientèle. En rentrant chez lui, il souffrait que ses enfants innocents s'amusassent, que sa femme l'embrassât. Tout de suite après le dîner, il s'enfermait dans son bureau. Là, il vidait ses poches, ouvrait les fenêtres, cachait les dossiers, fermait la bibliothèque et les tiroirs et portait les clés sur la table du vestibule. De retour dans son bureau, il essayait alors d'oublier qui il était et de se mettre à la place du public. « Enfin, quand un objet me donne satisfaction, est-ce que je continue à l'acheter ou bien est-ce que je cesse ? Quand mon porte-plume réservoir sera usé, je m'en procurerai un autre. C'est évident. Mais pour les talons, est-ce la même chose ? J'en suis content, c'est entendu. Mais je ne suis pas habitué à eux. Je ne pense pas à les changer tout de suite. Puis j'oublie qu'ils existent. Au fond, ce n'est qu'une mode. » Ses affaires marchaient pourtant fort bien. À aucun signe, on ne pouvait prévoir une baisse quelconque. Mais la neurasthénie qui couvait en lui était la plus forte. Le spectacle du bonheur des siens lui devenait intolérable. Il avait continuellement l'impression de les tromper, de les berner, de leur réserver des malheurs. À cause du remords que cela lui causait, il ne put bientôt plus supporter leur vue. Quand il rentrait, il fallait qu'aucun domestique ne se trouvât sur son passage. Car seulement de les voir, il s'imaginait que le jour était proche où ils ne pourraient plus régler leurs appointements. Il se faisait servir ses repas dans son bureau. Encore fallait-il que ce fût une femme de ménage que l'on payait tout de suite qui les apportât. La nuit, il ne dormait presque pas. Il arpentait son bureau de long en large. Parfois, il se rendait sur la pointe du pied dans les autres pièces, touchait tous les bibelots sur son passage. Quand il les soulevait à peine, il lui semblait, par un effort d'imagination, qu'il les emportait. Puis, devant la première grande glace, il s'arrêtait. Après s'être assuré que personne ne le guettait derrière une porte, il tirait une cigarette de son étui, la mettait au coin de sa bouche, enfonçait les mains dans les poches de son pantalon, courbait le dos, faisait un rictus et restait plusieurs minutes à se regarder dans cette pose d'apache. Le jour où Louise rencontra Alexandre chez Loukomski, une scène avait éclaté après le déjeuner entre son père et sa mère. Celle-ci lui avait reproché de lui rendre la vie intenable. Louise avait voulu prendre la défense de son père, mais Madame Perrier l'avait sèchement remise à sa place. « Tu es ma fille, tu n'as qu'à te taire !» Sur cette parole, Louise était sortie en claquant les portes. Dehors, ne sachant à quoi employer le temps, elle s'était soudain souvenue du sculpteur chez qui elle avait déjà rencontré de nombreuses gens et qui lui avait dit avec emphase « Chez moi, c'est tous les jours comme cela. » L'enfance la plus misérable qui puisse être fut celle d'Alexandre Aftalion. Cela avait été dans une bourgade qui se trouvait à une centaine de kilomètres de Sofia qu'il était né. Quatre garçons et deux filles emplissaient déjà de cris la masure de ses parents. Seuls grandissaient les enfants à qui une constitution robuste permettait de supporter les privations et les rigueurs du climat. Sa mère, quelques semaines après la naissance de son fils, n'eut plus de lait. Des farines à l'eau, pleines de grumeaux, alimentèrent Alexandre. Elle cuisait dans une casserole de fer, la même pour toutes les pâtées, enduite d'une croûte solide et sillonnée à l'extérieur de traînées sèches. Hiver comme été, Alexandre était vêtu d'une espèce de sac d'où, par des ouvertures, sortaient ses membres. Jusqu'à 6 mois, il pleura presque sans interruption. mais personne ne s'en souciait, si bien que, par entêtement, ses pleurs dégénéraient en accès colériques, puis en des convulsions qui duraient tant que ses forces ne le trahissaient point. À la fin, il s'évanouissait. Tout seul, soit sur la paille de l'étable, soit sur des hardes, il revenait à lui. Ses mains battaient l'air, un léger tremblement l'agitait. Avec une expression d'étonnement, il cherchait au-dessus de lui un visage familier. Puis, brusquement, il poussait des cris de terreur. Ses doigts, aux os encore tendres, se crispaient. Comme chez les enfants qui ont grandi seuls, que personne n'a préservé des tics, auxquels on n'a pas répété sans cesse « ne fais pas de grimaces », un coin de sa bouche se tordait, rappelant d'un seul coup de quelle chair fragile il était fait. Des veines, dont la grosseur frappait dans un corps si neuf, sillonnaient son front, et il retombait en convulsions. À la longue, comme on ne s'inquiétait pas de lui, ses crises s'espacèrent. Couché sur le dos, il regardait le ciel durant des heures de ses yeux tristes. Les mouches couraient sur sa peau sans qu'il pleurât. Le froid et la chaleur le laissaient indifférent. Ses traits fripés, ses gestes, où n'entrait aucune grâce et qui s'achevaient comme ceux d'un homme, faisaient songer à quelque nain vieilli. Quand il pleurait, on eût dit des lamentations douces et monotones. Sans défense sur la terre, il semblait attendre une délivrance du ciel. Des chiens le léchaient, se couchaient le long de son corps ou sur sa poitrine. Il ne les craignait pas. Machinalement, il jouait avec eux et, quand leur poids le gênait dans sa respiration, se défendait, les repoussait sans crier, n'attendant un secours que de lui-même. Son premier sourire, personne ne le vit. Étendu sur un grabat, mangé de vermine, il s'était soulevé. Ses yeux s'étaient soudain portés vers une fenêtre où le ciel était bleu et un sourire, à peine perceptible, aussi léger qu'un souffle, avait erré sur son visage maigre et sale. Plus tard, on se buta contre lui partout. Il se déplaçait à quatre pattes avec une agilité extraordinaire, allant ainsi aussi vite que s'il eût couru, et ce ne fut que quelques années après qu'il se décida à marcher, non sans que, longtemps encore, au moindre fait imprévu, il ne se remît à terre. Il mangeait ce qu'il trouvait, suçait des pierres, buvait de l'eau croupie. Quand sa mère le surprenait, elle le frappait tellement que plusieurs fois, elle le laissa sans connaissance sur le sol. À la suite de ces brutalités, des querelles furieuses éclataient entre ses parents. Les enfants se sauvaient. Durant des heures, la masure retentissait d'injures. Finalement, on allongeait Alexandre sur une sorte de lit et son père lui jetait à la figure des terrines d'eau. Un soir, quelques années plus tard, vers 11 heures, une voiture s'arrêta devant la masure des Aftalions. Les ruisseaux étaient gelés. Une neige épaisse recouvrait les plaines. Le ciel étincelait de 1000 feux. Un homme gras, vêtu d'un manteau de fourrure, les yeux presque cachés sous une toque, en descendit non sans peine et entra dans l'habitation. C'était un marchand du nom de Léon Sealing. Il tenait dans un quartier populeux de Sofia un important magasin de comestibles. À la vue d'Alexandre, qui s'était levé pour chercher du bois dans une sorte de hangar, il s'écria « Ça n'est pas encore un apprentissage, ça ne gagnera donc jamais d'argent !» Puis, se tournant vers le père Aftalion, il ajouta « Confie-le-moi, ton fils, il a l'air solide. Avec ce qu'il gagnera chez moi, il te nourrira, toi et les tiens. » Alexandre avait alors une 15aine d'années. Il ne savait ni lire ni écrire. À peine pouvait-il s'exprimer. Comme une bête, il reculait dès qu'on l'approchait. Cependant que ses aînés servaient tous dans des fermes ou au bourg des environs, il restait, lui, auprès de ses parents, dans un état voisin de l'idiotie. En arrivant à Sofia, il eut l'impression de pénétrer dans un paradis. L'admiration l'empêchait de penser. Comme l'enfant à qui échoirait au même instant tous les jouets de la terre, il demeurait frappé de stupeur. Sur chaque statue, sur chaque tramway, sur chaque devanture, son regard se posait une seconde. Cette ville étincelante de lumière et des 1000 et 1000 paillettes de la neige était à ses yeux semblable à ce monde qui se trouvait derrière le ciel et auquel, allongé sur le dos, au milieu d'un champ, il avait rêvé tant d'heures. Les palais, les églises, les dômes, les campaniles se dressaient autour de lui comme autant de lieux vides, sans intérieur, plantés au hasard dans le seul but d'éblouir. Sous des arcades de bois, des passants emmitouflés se promenaient. Les uniformes, les jardins, les attelages laqués trottant avec un bruit de clochette, le transportaient d'extase. Tout ce qui, jusqu'à ce jour, avait adouci sa vie, le ciel bleu, les fleurs, le soleil, fondait dans son souvenir pour laisser place à un bonheur plus discipliné qu'il sentait que certains devaient toucher, qui lui apparaissait comme celui des hommes. C'était la révélation d'une joie qu'il avait devinée au-dessus de la vie chaude et informe de la nature. Assis à côté du marchand, il avançait dans un vacarme vibrant de cris, de sonneries de cloches, laissant derrière lui des ponts de pierre blanche, des places dont la neige était sillonnée de chemins. Ses yeux, ouverts par le ravissement, n'apercevaient plus qu'une nappe bleue que, parfois, une réverbération éblouissante traversait en ligne droite comme une fusée. Cette ville, pour lui, continuait sans fin, et il imaginait au-delà de l'horizon des monuments toujours et toujours plus beaux. Mais le marchand s'engagea dans un dédale de rues étroites. Peu après, il s'arrêta devant une maison basse, au mur décrépit, à la porte de laquelle se balançait un écriteau. Il se leva, fit quelques pas en sautillant pour se dégourdir, puis alla ouvrir, sur un côté de la maison, une grande porte à deux battants. Comme Alexandre était resté allongé, il lui cria « Lève-toi, fainéant, qu'est-ce que tu attends? Aide-moi » Léon Sealing était un homme de 50 ans. Aucun bon mouvement ne lui paraissait sincère. Tout homme qui lui parlait cherchait avant tout à le duper. Le raisonnement suivant venait alors à son esprit. « Même si je veux son bien et que je lui promette de l'argent, il en désirera le double. » Et même si je lui donne ce double, il cherchera à me soutirer le double de ce double. L'intérêt seul le dominait. Selon lui, il n'était pas un être sur terre qui n'agit autrement que dans un but intéressé. Pour trouver un mobile égoïste à tous les actes, il n'y avait pas plus ingénieux que lui. Les mendiants étaient tous des malins, les amoureux des imbéciles, les courageux des farceurs, les honnêtes gens des dissimulateurs. Ainsi, alors qu'un voisin lui apprenait en pleurant la mort d'un parent, il souriait sans oser pourtant prononcer autre chose que quelques monosyllabes « et ». Un père lui racontait-il qu'il adorait son enfant, qu'il ricanait « C'est pour les vieux jours, hein ?» À partir de ce jour, une vie de forçat commença pour Alexandre. Levé bien avant l'aube, il faisait tous les plus gros travaux, se couchait tard dans la nuit. Quand il demandait, entre les heures des repas, un morceau de pain, Sealing lui disait « Tu as déjà faim, mais gagne-le ton pain avant de le manger. » Si, par hasard, il avait un moment de répit, il s'asseyait dans un coin et s'endormait. Quelques minutes après, des cris et des jurons le réveillaient en sursaut. Titubant encore de sommeil, il se précipitait dans la cour et, dans son affolement, ne sachant quoi faire pour travailler, se mettait à pousser la première caisse, le premier tonneau qui se trouvait devant lui. Mais la colère de Sealing le harcelait encore. « Idiot, ce n'est pas cela qu'il faut faire !» Épouvanté, il s'élançait vers la fontaine et emplissait d'eau un seau, cependant que le marchand criait que ce n'était toujours pas cela qu'il fallait faire, obligeant le commis à trouver seul son travail, et cela parfois durant une longue demi-heure. Sa femme et son fils se joignaient à lui pour insulter Alexandre, qui, à la fin, perdant complètement la tête, se jetait successivement sur toutes les tâches qui lui étaient réservées, ne s'arrêtant à aucune, de peur que ses maîtres eussent encore crié « Non, ce n'est pas cela !» Quand la pompe était gelée, Alexandre cherchait l'eau au fleuve. Comme si de rien n'était, il devait laver la cour, le plancher du magasin. S'il économisait un seau pour s'épargner un voyage, Sealing lui disait « Ça coûte donc de l'argent, l'eau ?» Il étriait les chevaux, enlevait la neige devant la maison. Lorsqu'enfin il rentrait, il trouvait le fils du marchand, un jeune homme de son âge, assis près du feu et qui, lui montrant une tartine de pain grillé, lui disait « Ce n'est pas pour toi !» Un événement inattendu mit fin à ce martyre. Un an après son arrivée à Sofia, Léon Sealing chargea Alexandre de faire des courses et d'effectuer, à la fin de la semaine, de petits encaissements. Un samedi, sa tournée terminée, Alexandre, qui avait pris le chemin du retour, s'aperçut tout à coup qu'il avait perdu une pièce d'argent d'une valeur de 5 francs. D'abord, il ne le crut pas. Il compta son argent, le recompta. Elle manquait en effet. Quand la nuit tomba, il s'achemina enfin vers la demeure du marchand. « C'est toi, voleur !» fit le marchand à la vue de son commis. Alexandre s'avança. « Qu'est-ce que tu faisais là ?» La lumière qui venait de l'intérieur de la boutique éclaira le visage pâle d'Alexandre. Il était prêt à tout endurer. « Donne l'argent !» Il tendit la sacoche. Puis, lorsqu'il en fut séparé, qu'il la vit aux mains du marchand, il se sentit baigné de soulagement et comme remonté. Il balbutia. « Il manque une pièce. Je l'ai perdue. » Léon Sealing regarda son commis avec stupéfaction. « Tais-toi, tu ne sais pas ce que tu dis. » À ce moment, Ida Sealing entra dans le magasin. À sa vue, le marchand qui comptait l'argent oublia où il en était et brouilla toutes les pièces. « Ce vaurien prétend qu'il a perdu de l'argent. Je finirai par le croire. » Elle posa son regard sur Alexandre. « D'où sort-il ? » ?»« Ne parle pas, je compte. » fit Léon Sealing, qui venait de recommencer à empiler les pièces. Sa femme s'assit sur le banc destiné aux clients. La boutique était silencieuse. Au bout de quelques instants, le marchand se tourna vers le commis qui respirait avec peine. « Il manque une pièce !» Alexandre leva les yeux. Il vit les joues de son maître rougir et comme s'enfler. Il le vit se lever, s'avancer vers lui, si changé que, durant un instant, il ne le reconnut pas. La colère avait modifié son expression. On eût dit que ses yeux se fussent agrandis, que son visage eût vieilli, que sa démarche ne fût plus celle de la vie quotidienne et ressemblât à celle d'un homme redevenant mortel au moment où l'édifice, élevé en 20 années de labeur, s'écroulerait. Une terreur folle serra la gorge d'Alexandre. Il recula instinctivement. En l'espace d'une seconde, il se rendit compte que le fils de son maître, qui eût pu le rattraper à la course, n'était pas là. Il recula encore. La porte était entr'ouverte. Avant même que le marchand eût prononcé un mot, il s'enfuit soudain comme un fou dans la rue. Des clameurs, des appels, des cris vinrent à ses oreilles. Il les perçut de moins en moins distinctement, et, comme il venait de tourner dans une ruelle obscure, il se trouva enveloppé d'un lourd silence. Après avoir vagabondé 2 ans sur les routes, Alexandre arriva à Vienne. Ce fut dans cette ville qu'il fit une rencontre qui bouleversa son existence. De pâles rayons éclairaient le ciel. C'était une de ces après-midi tristes où l'on sent que la terre repose, qu'aucune fièvre ne l'agite, que les villes les plus mouvementées sont momentanément calmes. Alexandre avait déchargé tout le jour des sacs de grains. Le dos meurtri, les mains engourdies, les ongles écrasés d'avoir serré tant de sacs pour les maintenir sur ses épaules, il suivait une rue populeuse à la recherche d'une chambre lorsqu'un homme de 30 ans peut-être, vêtu de noir, le regarda avec insistance. Il portait sous un bras quelques livres. Une barbe blonde encadrait son visage aux yeux bleus et naïfs. « Tu ne sais peut-être pas où aller ?» Alexandre fixa son regard dans celui de l'inconnu. Une expression de droiture et de douceur le rassura. « Je cherche un endroit pour dormir. » Cet inconnu s'appelait Stéphane Baumgartner. Il vivait seul dans une espèce de vaste grenier qu'il payait ordinairement quelques francs par mois, mais qu'il n'avait pas réglé depuis plus d'un an. C'était le fils unique d'un tailleur établi à Lemberg. Dès son jeune âge, il s'était écarté des autres enfants. Enfermé et rêveur, il avait passé des nuits entières à sa fenêtre à regarder les étoiles en pensant qu'il y en avait autant derrière et que toutes ensemble ne formaient qu'un grain. Son adolescence durant, il s'acharna à faire aller son esprit le plus loin possible, éprouvant un sentiment de supériorité à la supposition qu'il imaginait l'infini plus fortement que les autres hommes. Il s'entêtait à vouloir reculer les limites de son cerveau. À ses efforts, il s'épuisait et il arrivait un moment où, ayant perdu tout contact avec la Terre, un vertige lui donnait l'impression de descendre dans un gouffre de constellations comme dans les cauchemars. Peu après, il recommençait et la même chute se renouvelait. Il avait conscience que, dans la foule des estropiés, des fous, des malheureux, devait inéluctablement naître un jour un homme qui révélerait à ses semblables leur raison d'être. Et de toutes ses forces, il avait tendu à être cet homme. Ses moindres gestes près d'une fourmilière, il les voyait grandis, comme si un être gigantesque les eût répétés au-dessus de lui. Mais en vieillissant, ses pensées devinrent moins excessives. Il accepta ses limites. Le sentiment d'avoir été plus loin que tout autre l'emplit de fierté. Peu à peu, il se tourna vers ses semblables. Si, au fond de lui-même, leurs actes n'avaient aucune importance, tant ils étaient peu de choses dans l'immensité, il trouvait, justement à cause de leur petitesse, une grandeur à vouloir la justice. Les abus auxquels il assistait, les richesses de certains à côté de la misère des autres, firent qu'il devint de plus en plus solitaire. Il rêvait d'une humanité où tous les hommes seraient égaux, où chacun aurait les mêmes droits, où régnerait la bonté. Selon lui, cette heure de paix universelle approchait. Chacun devait la souhaiter de tout son cœur et travailler pour elle. Délaissant la situation que ses parents lui avaient préparée, il voulut montrer l'exemple. Alexandre accepta l'hospitalité que lui offrit l'inconnu. Une vie nouvelle commença. Le travail de la journée achevé, Alexandre se hâtait de rentrer, le cœur plein de reconnaissance. Mais à peine arrivé, tout ce qu'en chemin il avait médité de dire à son camarade s'envolait de son esprit. L'air sombre, il demeurait devant lui sans prononcer une parole. Une sorte de timidité l'empêchait de parler, de faire des gestes, et quand, en train de marcher, il devinait, pesant sur lui le regard de son camarade, il se sentait tout gauche et s'arrêtait. Le moindre bruit le faisait rougir. Son ami manifestait-il un désir qu'il se levait immédiatement pour l'exaucer, mais toujours sans desserrer les dents, comme avec méchanceté. Quand Stéphane lui adressait la parole, il ne l'écoutait pas et, les yeux baissés, se laissait bercer par sa voix. C'était une véritable vénération qu'il éprouvait à son endroit. Un soir, ayant remarqué l'amour de son ami pour la lecture, il se rendit, au retour du travail, dans une librairie et demanda un livre. Comme il ne savait lequel acheter, on lui remit un ouvrage populaire. Le cachant sous sa pèlerine, il l'apporta à la maison. Mais au dernier moment, il n'osa le donner et le dissimula sous son lit. Chaque jour, il remettait au lendemain d'en faire le présent. Une semaine se passa ainsi. Finalement, profitant que son camarade s'était absenté après le dîner, il le plaça en évidence sur une table et, tremblant d'émoi, se sauva dans l'autre pièce. À son retour, Stéphane l'y rejoignit. « Qu'est-ce que c'est que ce livre ?»« C'est pour moi. Je veux apprendre à lire. »« Mais il y a des livres ici. Il ne fallait pas acheter ce sale roman. » C'était en effet une sorte de confession écrite soi-disant par une femme sortie de prison après y avoir subi une peine injuste. Chaque matin, un peu avant l'aube, Alexandre se levait et préparait son thé en s'appliquant à ne faire aucun bruit de peur de réveiller son camarade qui dormait encore. Dans la vaste pièce pleine d'ombre, il cherchait son manteau, puis se penchant à la fenêtre, regardait le temps qu'il faisait. Un spectacle d'une tristesse sans bornes se présentait à ses yeux. Tantôt, sous un ciel fourmillant d'étoiles, tantôt sous une pluie fine, se dressaient devant lui des maisons grises et silencieuses. La rue était toujours déserte. Parfois, une lumière pâle glissait derrière des vitres nues, puis disparaissait. Cette journée qui allait commencer, il était peut-être le premier à l'attendre ainsi. Dans quelques instants, il faudrait qu'il quittât son ami, cette chambre où flottait une odeur tiède et si douce de renfermer, cette paix profonde pour se mêler à des hommes d'équipe brutaux, puis, durant des heures, exécuter le même travail. Chargé d'une musette qui renfermait son déjeuner, du pain, des pommes, de la viande fumée, il descendait dans la nuit de l'escalier sans penser, averti seulement de la rue par le courant d'air de la porte d'entrée toujours ouverte. Par des ruelles, dont la dernière s'éclairait au jour, il gagnait le chantier où des rires et des jurons retentissaient déjà. La pensée de retrouver le soir Baumgartner illuminait son travail. Des rêves s'enchaînaient sans fin dans son esprit. Il ressemblerait plus tard à son ami. Comme lui, il saurait lire, écrire, il étudierait. Comme lui, des nuits entières, à la lueur d'une lampe, il travaillerait. Au-dessus de lui, de ses directeurs mêmes, il sentait qu'il existait des hommes qui guérissaient les maladies, qui prêchaient, qui défendaient les criminels. Il serait un de ces hommes. Puis, tout à coup, il se voyait poussant un chariot ou déchargeant un wagon, et le but vers lequel il tendait confusément lui apparaissait si haut qu'il était pris d'un accès de désespoir. Le soir, quand il retrouvait Stéphane, il le contemplait avec admiration au milieu de ses livres. Des conversations commençaient à s'ébaucher entre les deux hommes. Après le dîner, Baumgartner lisait à haute voix ou apprenait à Alexandre à écrire. Lorsque celui-ci, tombant de sommeil, fermait les yeux et que sa tête s'inclinait tout doucement, il s'interrompait, préparait du thé, puis, lorsqu'une tasse fumante se trouvait devant son élève, il le frappait doucement sur l'épaule. « Allons, il faut travailler. Réveille-toi !» Alexandre remuait la tête, se frottait les yeux, souriait comme pour se faire pardonner, puis, de nouveau attentif, écoutait son maître jusqu'à ce que, de nouveau, il sombrât dans le sommeil. Ainsi, plusieurs fois dans la nuit, Baumgartner préparait du thé et doucement réveillait Alexandre. Ses réveils devant du thé fumant, il en connut tellement que plus tard, les moindres vapeurs lui rappelèrent toujours ses années de sa vie. Ils vécurent ainsi 3 ans. Un après-midi d'hiver, la neige se mit à tomber avec tant de force que le contremaître du chantier renvoya les ouvriers. Alexandre, transi et fiévreux, se hâta de rentrer. Il trouva son ami assis sur son divan, la tête entre ses mains. « Qu'est-ce que tu as ?» Baumgartner, comme honteux d'avoir été surpris dans un état d'abattement, se mit à rire. « Eh eh, rien du tout, absolument rien !» « Tu pensais à quelque chose tout de même ?»« Je me demandais ce que le monde dirait si je lui annonçais le nombre exact de tous les flocons qui ont touché le sol à cette seconde. Hein ? Tu crois que je deviens fou ?»« On ne te croirait pas. » »« Mais si le nombre est exact à un flocon près, on est bien obligé de me croire. » Il rit plus fort, puis tout à coup, se levant, se mit à marcher en faisant 2 pas d'un côté, 2 pas de l'autre, comme s'il eût appris à danser. Arrivé au fond de la pièce, il pivota et, se trouvant face à Alexandre, le regarda avec une expression subitement grave. « C'est fini !»«
Quoi ?»«
Notre vie. Nous allons changer notre vie. Moi, je vais partir. »«
Où ?»«
Mon père est vieux. Je le remplacerai. » Je ne peux plus continuer. Je reste sur ma place. Je ne serai jamais autre qu'un tailleur. » Il se mit à rire tristement et ajouta « Qu'un petit tailleur. » Alexandre crut qu'il allait tomber. Il sentit contre son dos, plaqué comme un linge, l'étoffe humide de sa tunique. Au même moment où un flot de supplications allait jaillir de ses lèvres, il se maîtrisa. « Tu vas partir ?»
« Toi aussi, il faut que tu partes. Sais-tu qu'il y a un pays ?»«
Mais oui, tu le sais. Il y a un pays où les hommes sont heureux et libres, où on t'encouragera, où on t'aidera. Va en France, et quand tu seras un savant, un grand savant, pense quelquefois au petit tailleur. » Après avoir parcouru durant plusieurs années l'Europe centrale, travaillé dans tous les chantiers, enduré tous les maux, Alexandre arriva à Paris, où il ne tarda pas de changer. Il prit l'habitude de se lever tard. D'autres avaient les mêmes soucis d'argent que lui. Aussi se sentait-il moins seul et ne redoutait-il plus le lendemain. Quelque chose en lui était cassé. Ses aspirations et Paris avaient formé si longtemps un tout qu'il lui apparaissait l'avoir atteint parce qu'il se trouvait en France. Il commençait à sentir le poids de ses années douloureuses. Sa patience et sa résistance physique s'étaient envolées. Le soir, il s'enfermait encore dans sa chambre, mais d'entendre les discussions passionnées dans la salle à manger, de deviner une vie intense autour de lui, faisait qu'il ressortait aussitôt et se mêlait aux pensionnaires. Quand, parfois, il réussissait à rester dans sa chambre, au bout d'une demi-heure, le sommeil le gagnait. Il commençait par lutter, puis, sentant des douleurs dans le dos, il se couchait en jurant de travailler sérieusement le lendemain. Au moindre froid, il s'enrhumait. Une sorte de fatigue générale et de l'anémie l'empêchait même de lire.
De son enfance, il avait gardé une certaine amertume. Elle n'amoindrissait pourtant pas la croyance qu'il avait en un avenir radieux. Rien ne pouvait le faire douter. Même dans les moments les plus pénibles, il avait foi en lui. Tout ce qu'il endurait lui apparaissait tellement provisoire qu'il donnait l'impression à son entourage de vivre dans un autre monde. Cette confiance l'aidait à supporter le froid, la faim, sans une plainte, et quand quelqu'un se lamentait, il disait alors avec candeur « Attendez encore un peu, nous aurons un château. » 6 mois après que Louise eut fait la connaissance d'Alexandre, elle ne put plus cacher à ses parents qu'elle allait avoir un enfant. Une scène terrible se déroula dans sa famille. Sa mère voulut l'enfermer. Déjà accablé par le mal, son père ne comprit pas exactement ce qui s'était passé. Ses frères se moquèrent d'elle et Thérèse lui dit simplement qu'elle n'aurait pas voulu être à sa place. Un matin, enfermant ses objets de toilette, ses parfums, dans une valise, comme pour un voyage de quelques heures, elle alla retrouver Alexandre. L'amour qu'elle avait pour lui était si grand qu'elle ne se rendit même pas compte combien la nouvelle vie qu'elle mena à partir de ce jour était pénible. Elle souffrait de manquer d'air, d'espace, dans la chambre étroite d'Alexandre, de manger dans de petits restaurants à côté d'inconnus, mais toujours elle souriait. Alexandre courait partout pour emprunter quelques francs, cependant que Louise attendait parfois des heures son père à la sortie de l'usine, se cachant de peur d'être reconnue par des ouvriers, pour le supplier de lui donner un peu d'argent. Toujours il était pressé et semblait, quand il la voyait, ne plus se souvenir d'elle. Quand l'enfant naquit, elle voulut qu'on l'appela Nicolas à cause du tsar, et Alexandre, qui se souvenait des paroles de Baumgartner à son sujet, voulut s'y opposer. Mais il n'avait plus de conviction profonde. « Appelons-le Nicolas, pensa-t-il, qu'est-ce que cela peut faire ?» Il était fier et heureux d'être père d'un fils bien portant. Il avait craint, au point que cela lui avait donné des migraines, que l'enfant ne vînt au monde avec quelque infirmité. Il s'était senti si bas physiquement qu'il avait instinctivement redouté que cela n'eût eu une répercussion sur la conformation de l'enfant. Aussi, à peine eut-il vu le jour qu'il regarda les mains et les pieds du nouveau-né avec la peur irraisonnée qu'ils eussent 4 ou 6 doigts. À partir de ce jour, il ne vécut plus que pour son fils. Il s'appliquait à tout prévoir. Pour que l'enfant eût de l'air et qu'en même temps il ne souffrît pas du froid, il le couvrait exactement jusqu'au cou. Chaque soir, en imitant des aboiements, il courait à 4 pattes autour de Nicolas, le portait sur son dos. L'histoire d'Henri IV, surpris par un chambellan dans cette posture, venait sur ses lèvres à tout moment. En pleine rue, il hissait son fils sur ses épaules. Quand il empruntait de l'argent, il y mettait une note sentimentale, disant par exemple « C'est pour des médicaments ». L'hygiène était sa marotte. Chaque matin, en portant un panier grillagé, divisé en compartiments et plein de petites bouteilles à fermeture spéciale, il allait chercher dans une laiterie fondée par Rothschild du lait stérilisé. Il méprisait ostensiblement les conseils des vieilles femmes pour s'en rapporter uniquement aux avis des chefs de clinique et professeurs de la faculté. M. Perrier, pendant ce temps, sombrait doucement dans la folie. De plus en plus, il se désintéressait de tout. Pourtant, il continuait à se rendre aux mêmes heures à la fabrique et à donner des ordres comme si de rien n'était. Le contraste entre le désordre de son esprit et la rigidité de sa vie lui donnait une sorte de jouissance. Plus la raison le quittait, plus il semblait prendre à cœur la bonne marche de ses affaires. Personne ne discernait la vérité. Un matin, comme son secrétaire lui soumettait un projet de publicité, il fit cette observation « À quoi bon ?» Mais devant l'étonnement de son interlocuteur, il se reprit aussitôt et ajouta, avec une présence d'esprit qui était chez lui extraordinaire quand il s'agissait de cacher son mal, « Notre affaire marche si bien !» Il lui semblait que, de même que s'il avait tenté de poser une bombe dans quelque édifice, il eût été poursuivi par une foule en délire s'il avait, par quelques ordres, entravé la marche de son usine. Il se surveillait pour que le mal ne vînt pas de lui. Mais à la suite de ses efforts, il tombait dans une grande dépression qu'il excusait ainsi « Tout ce qui peut m'arriver en dehors n'a aucune importance et ne regarde que moi. » Il s'appliquait à ne rien laisser paraître de ses sentiments devant ses subalternes. S'il ne croyait pas à son affaire, son devoir était de faire semblant d'y croire. Parfois, il pensait à céder son entreprise. Mais il n'osait le faire, car il lui apparaissait soudain qu'il se trahirait, que les acheteurs feraient une enquête, et que ce que son esprit ruminait sans cesse deviendrait public et paraîtrait dans les journaux. Il vivait dans des transes ainsi qu'un inculpé qui doit comparaître devant des juges et dont la vie privée appartient à tous. L'exagération qui ne manquait jamais d'enfler la moindre de ses pensées l'amenait alors à s'imaginer que, comme dans les cauchemars de sa jeunesse où les endroits les plus intimes de son être étaient exposés au grand jour, tout le monde connaîtrait exactement le cours de ses réflexions et qu'ensuite il ne pourrait plus regarder personne en face et serait obligé de se taire. Il vivait ainsi dans l'attente d'une catastrophe qui lui semblait d'autant plus horrible qu'il était seul à la prévoir. Puis il crut que ses ouvriers et contremaîtres lisaient en lui. L'un de ceux-ci lui fit un jour la remarque suivante. « Vous pourriez peut-être songer, monsieur le directeur, à créer une caisse de secours pour les ouvriers. Il suffirait de quelques années de cotisation pour qu'une somme rondelette y soit affectée. Au cas où personne n'aurait besoin d'y avoir recours, elle servirait à édifier une sorte de maison de vacances où vos ouvriers auraient le droit de se reposer, à tour de rôle, 15 jours par an. » Monsieur Perrier répondit évasivement. Mais durant une semaine, cette demande le hanta. Quelques années de cotisation. Quelques années. Ah oui, c'est pour se moquer de moi. On sait bien que je vais faire faillite. Puis, dans les moments de bonne humeur, il se disait « Ils sont sincères, ces braves gens. Quoi de plus légitime que leur demande ?» Il souffrait alors, car il avait le sentiment de tromper ses ouvriers, de leur cacher la vérité, de les laisser se bercer d'espérance. Avait-il le droit de les regarder s'organiser, améliorer leur vie, alors que lui, leur maître, savait très bien que tout allait crouler? La crainte de décevoir ses ouvriers, d'être renié par ses amis qui ne lui pardonneraient pas de les avoir bernés, ne le quittait jamais. À cause de cela, il fuyait toutes les relations. Puisqu'il devait les perdre un jour, puisqu'il n'était pas digne d'elles, pourquoi se lirait-il? Il se repliait en lui-même. Rien ne le gênait plus qu'un camarade l'assurant de son dévouement pour la vie ou parlant de sa bonté ou surtout que ces gens, qui, perçant sa froideur, laissaient entendre par des signes ou des phrases à double sens qu'ils devinaient derrière son air distant un homme pour lequel ils avaient un profond respect. M. Perrier redoutait ses amis plus que tous car il avait conscience que le jour de la chute, ceux-ci le haïraient d'autant plus qu'il avait aimé. À la fin, il ne voulut plus voir personne. Ses enfants parlant de vacances, sa femme de l'avenir, ses proches des affaires, lui étaient insupportables. Il n'endurait pas que l'on s'attardât sur des projets. Aussitôt, il détournait la conversation. « Qui peut prévoir l'avenir ? Ou bien, on sera sans doute mort d'ici là, » disait-il alors. À ces phrases, sa femme répondait « Comme tu es bête !» ou « Qu'est-ce que tu veux bien avoir dans la tête pour te faire des idées pareilles ?» Il se défendait mollement, soit en mettant ses paroles sur le compte de la sagesse, soit en marmonnant « Il vaut mieux voir la vie en noir. De cette façon, on n'a pas de désillusion. » Comme il croyait que son usine tomberait, non pas d'un seul coup, mais peu à peu, il se faisait apporter la veille de chaque échéance tous les livres de comptabilité et, durant des heures, dressait des tableaux comparatifs. Finalement, ce doute en son entreprise devint si violent qu'il se mit à abhorrer cette dernière et que les symptômes de folie qui se manifestaient déjà en lui devinrent de plus en plus fréquents. Un matin, il arriva plus tôt que d'habitude à son bureau. Il fit appeler Coquerel, son secrétaire, et à brûle-pourpoint lui dit « Coquerel, dans 2 ans, je vous donne ma fille en mariage. » Parce qu'il s'imaginait être le dernier des hommes, il éprouvait parfois tout à coup le besoin pour se relever de faire le bien autour de lui. Cependant qu'il en avait encore la possibilité, il songeait, comme ces hommes ruinés qui jettent par les fenêtres leur dernier argent afin qu'on leur soit moins cruel une fois qu'ils seront tombés, à s'assurer des amitiés pour plus tard. Souvent, il restait des heures à rêver, enfermé dans son appartement. À travers les stores que sa femme avait brodés, il regardait les arbres et les villas ensoleillées qui se dressaient devant lui. Un dimanche, après déjeuner, il se rendit au salon. C'était en été. Les siens étaient partis depuis une semaine pour Dieppe. Il avait chaud. L'air de la pièce était gris de fumée. Son attention se portait tantôt sur les bibelots d'une vitrine, tantôt sur les larmes de cristal du lustre, tantôt sur une console dont le marbre était entouré d'un minuscule garde-fou en cuivre. Soudain, il imagina ses biens bousculés dans un déménagement, puis, plus longuement, jetés par les fenêtres au cours d'un incendie. Les meubles tombaient un à un sur les dalles de la terrasse et se brisaient comme du verre. Peu à peu, toutes les pièces de la villa se dénudaient. Il ne possédait plus rien. Il se rendait au premier étage. Les portes étaient ouvertes. On apercevait une enfilade de chambres vides où traînaient, comme dans des cantonnements abandonnés, des seaux et des boîtes de fer blanc. Il frissonna. « Tout cela ne vaut pas cher, » pensa-t-il. Il eut soudain conscience que sa maison allait tomber en ruine, qu'elle allait vieillir aussi vite qu'un objet neuf. Le mois dernier, il avait demandé à Coquerel, en affectant une curiosité d'enfant, « Combien cela peut durer, une maison ?»« 200 ans, 300 ans même, » avait répondu le secrétaire. Il se leva, frappa le mur. « Il ne sait pas ce qu'il dit. Dans un an, ce mur s'écroulera. » La fièvre le faisait transpirer. Il ouvrit la fenêtre. La monotonie de l'après-midi entra dans la pièce. Tant qu'elle avait été close de toutes parts, elle avait conservé sa vie propre. À présent, la brise lourde qui venait mourir contre les tapisseries la confondait, aux yeux de M. Perrier, avec le monde hostile et morne qui l'entourait. Il quitta le salon, erra quelques minutes dans la villa, puis l'idée lui vint de monter au dernier étage. Il y avait là une sorte de grenier où les enfants rangeaient leurs jouets. Il lui apparut alors que s'il mourait, les siens le rejoindraient un jour. « La souffrance sur la terre n'est pas si grande qu'on le pense, » se dit-il. L'horizon qu'il aperçut de la fenêtre du grenier le surprit par sa grandeur. Depuis des mois, il n'avait pas gravi un escalier. Aussi éprouva-t-il un instant cette même sensation agréable qu'un citadin ressent lorsque, après des années, il revoit la campagne. Il s'accouda sur la barre d'appui. Il remarqua dans le jardin 7 ou 8 chaises, les unes à côté des autres, et un fauteuil d'osier, dont la courbe du dossier, de l'endroit où il se trouvait, lui parut plus douce. Vu d'en haut, les parterres, la tonnelle, les arbustes avaient quelque chose de charmant. Le soleil baissait dans le ciel. Alors, sans qu'il s'étonnât de cette réflexion, M. Perrier s'imagina qu'il venait de manger un peu plus de la moitié d'un gâteau et qu'il se trouvait maintenant à la minute où l'on se rend compte que chaque autre bouchée vous rapproche de la fin. D'où il était, il pouvait voir les poutrelles qui soutenaient le toit. Des allées blanches sillonnaient les pelouses. Derrière les buissons poussiéreux qui dissimulaient le jardin aux passants, marchait un promeneur. Soudain, le regard de M. Perrier, qui jusqu'à présent n'avait fait qu'errer au loin, plongea juste au-dessous de lui. Alors il eut l'impression que le ciel et les arbres disparaissaient, qu'il n'y avait plus ni lumière ni obscurité, mais seule une sorte de fosse grise. La barre qui touchait sa poitrine, le sol sur lequel ses pieds étaient posés, il cessa de les sentir. Il lui sembla qu'il volait sans faire un mouvement, comme dans un miracle. C'était si agréable qu'il éprouvait un besoin impérieux de s'allonger, d'essayer d'avancer, couché dans le ciel. Il tendit les bras en avant, se pencha au dehors pour jouir davantage de cette sensation de légèreté. Mais tout à coup, il sentit qu'il tombait à une vitesse vertigineuse. Peu après la mort tragique de M. Perrier, Louise hérita d'un tiers de la fortune de son père. Il n'avait pas tenu compte de sa conduite et avait partagé ses biens entre ses filles et sa femme. Alexandre, Louise et leur enfant habitaient alors un petit logement rue Broca et vivaient misérablement des gains qu'ils tiraient d'une crèmerie qu'ils avaient montée à crédit et où venaient quelques étrangers. Dès que Louise fut en possession de sa part d'héritage, elle n'eut qu'une pensée, quitter Paris. Ils firent don de la crèmerie à un pauvre homme qui, de reconnaissance, s'agenouillait devant eux à tout moment et leur baisait les mains en pleurant de joie. Puis, après avoir longuement hésité sur le choix d'une ville, ils allèrent finalement s'installer à Genève sans laisser leur adresse à personne, éprouvant comme un immense soulagement à rompre définitivement avec cette vie pénible qu'ils avaient menée à Paris. Il y avait une dizaine d'années qu'ils habitaient dans la vieille ville de Genève, un vaste appartement qui se trouvait au-dessus d'une salle de réunion de francs-maçons dont on entendait les conversations bourdonnantes dès qu'on ouvrait un placard, lorsque la guerre éclata. Alexandre et Louise s'étaient mariés depuis. Leur fils, Nicolas, avait alors 15 ans. L'appartement qu'ils occupaient était une sorte de labyrinthe. Les couloirs qui s'enchevêtraient les uns dans les autres étaient recouverts d'un long tapis de feutre rouge qui avait été posé lors de la visite de Guillaume II à Berne, sur le chemin que suivit l'empereur pour gagner, de son wagon, la voiture qui l'attendait sur la place de la gare, et qu'Alexandre, à cause d'un côté brocanteur de son caractère, avait réussi à acheter pour presque rien. Une porte rembourrée, qui se fermait toute seule, séparait deux de ses couloirs. La nuit, on entendait les griffes du chat qui s'amusait à grimper jusqu'en haut de cette porte, à sauter à terre, puis à grimper de nouveau. Était-ce à cause de l'atmosphère triste de cet appartement, du mystère de toutes ces vastes pièces dont certaines étaient inhabitées, que ce chat semblait posséder ? Il bondissait dans l'obscurité, emplissait les chambres lointaines de bruit, surgissait soudain devant vous pour s'enfuir aussitôt en sautant. Alexandre avait fait aménager une salle de bain dont l'eau provenait d'un immense réservoir peint au ripolin et suspendu dans la cuisine, au-dessus du fourneau qu'il fallait allumer 3 heures d'avance avant que l'eau fût chaude. Il était fier de cette installation compliquée. Par goût, il s'adressait toujours à de petits artisans. Aussi avait-ce été un vieux plombier qui passait son temps à mettre au point une invention qui avait procédé à la pose de cette salle de bain bizarre. Louise reprochait toujours à son mari de ne pas s'adresser à des maisons sérieuses. Elle ne supportait pas qu'il fût ainsi familier avec des ouvriers, qu'il suivît dans leur atelier la marche des travaux, qu'il les aida même parfois. Entre ses parents, qui n'avaient aucune idée sur la façon de l'élever, Nicolas grandissait. Son père, qui l'adorait, n'osait jamais lui faire la moindre observation, et Louise, de plus en plus taciturne, le délaissait. Dans sa chambre, qu'il avait tapissée d'affiches de pneumatiques et de cartes postales comme on en faisait à cette époque, et qui représentait des femmes sur un haut tabouret de bar, il y avait un désordre indescriptible. À part la bonne, personne n'y entrait. La nuit, il se levait et, accoudé à sa fenêtre, il regardait la rue durant des heures, s'étonnant quand il voyait passer des enfants plus jeunes que lui, car, si ses parents le laissaient libre en tout point, ils ne lui permirent jamais de sortir après le dîner. Il aimait à s'imaginer qu'il était un enfant prodige. Il y mettait une force telle qu'il se voyait, par exemple, assis à un piano et, devant ses parents abasourdis, jouant les morceaux les plus difficiles, ou prenant part à une course de bicyclette et arrivant premier sous les acclamations, ou récitant une tragédie tout entière, ou encore traversant le lac Léman dans sa longueur à la nage. Parfois, tant ses rêves étaient vivants en lui, il s'asseyait réellement au piano et, promenant au hasard ses doigts sur les touches, se figurait qu'il improvisait quelques chefs-d'œuvre. Sa jeunesse entière fut ainsi hantée par le besoin d'être un prodige, de surprendre. Lymphatique et paresseux, il ne travaillait pourtant pas. Son père en souffrait, cela sans même le lui faire comprendre par un regard. Ses sens s'éveillaient. En même temps qu'il avait honte, au point qu'il serait mort de confusion si on avait deviné qu'il savait tout des relations entre hommes et femmes, il éprouvait le besoin de laisser percer ses connaissances par des sous-entendus. Il pensait toujours que des signes physiques le trahissaient, et longtemps il crut que seuls les enfants vicieux rougissaient. Quand il se baignait dans le Rhône, il se jetait tout de suite à l'eau parce que, pour une raison incompréhensible, il s'imaginait que la pointe de ses seins, qui, sous la chaleur de ses vêtements, n'avait aucune rigidité, trahissait ses troubles sensuels. À mesure qu'il grandissait, il s'habillait de plus en plus d'une manière excentrique. Mais ses parents étaient si loin de lui qu'ils ne le remarquaient même pas. Un mois durant, il alla jusqu'à se chausser d'escarpins de femme. En sortant du collège, il se rendait dans des thés dansants où il restait jusqu'à l'heure du dîner. Une femme, un jour, le conduisit chez elle. Nicolas était tellement ému qu'il ne prononça pas une parole. Comme la pluie se mit à tomber à torrents, elle lui prêta pour entrer un pardessus de vieil homme à revers de soie qui avait été sans doute oublié là. Et à partir de ce jour, ce pardessus resta un an accroché au porte-manteau de l'appartement de ses parents, sans que jamais personne ne songeât à en déterminer la provenance. Nicolas éprouvait pour son père un sentiment bizarre où entrait de la gêne, de l'amour et de la pitié.
Alexandre toussait déjà continuellement. Nicolas s'imaginait que c'était une comédie pour attendrir sa mère et croyait être le seul à le démasquer. Ses quintes de toux le rendaient nerveux, au point qu'un jour, il ne put s'empêcher de dire « Tu tousses exprès !» Son père le regarda un instant avec tristesse, puis lui répondit doucement « Tu as raison !» Depuis, Nicolas se demandait souvent si ce jour, son père avait deviné cette sorte de fureur qui l'avait poussé à faire cette remarque, ou bien si simplement il avait pris celle-ci pour un propos d'enfant. Nicolas devinait confusément que sa mère était issue d'une meilleure famille que son père. Aussi, à cause d'un sentiment bas, aurait-il voulu être seul aimé par Louise et était-il jaloux de l'affection que celle-ci portait à son mari? Tout ce que faisait son père pour mériter cet amour lui était insupportable. Il n'y voyait rien de sincère. Un jour, à table, comme Alexandre avait été dans la matinée chez le coiffeur et que sa barbe noire était bien taillée, Louise dit en riant « Père est beau !» Sans penser, Nicolas ajouta « Il a l'air d'un gentleman. » Madame Aftalion rougit. Lorsque cela lui arrivait, elle perdait tout contrôle d'elle-même. « Il ne sait plus ce qu'il dit. Quel enfant, mon Dieu !» Elle se leva et partit. Alors Alexandre se tourna vers son fils et lui dit avec sa douceur habituelle « Pourquoi as-tu dit cela ? Tu sais bien que ta mère est très nerveuse. » Nicolas ne pouvait également supporter chez son père certaines manières théâtrales qui lui étaient venues en vieillissant. Il avait honte de tout ce que disait ou faisait Alexandre dans la rue, au théâtre, au café. Lorsque celui-ci l'obligeait à céder sa place dans un tramway, ou s'agenouillait en pleine rue pour nouer le lacet d'une passante, ou encore se mêlait à un attroupement et prenait parti pour quelqu'un, Nicolas ne savait où se mettre. Peu à peu, le véritable caractère d'Alexandre s'était dégagé. D'avoir passé par tant d'années misérables, côtoyé des hommes dont la volonté était de faire, d'être monté lentement jusqu'à cette sorte d'aisance dans laquelle il vivait à présent, faisait qu'il méprisait les hommes paisibles. Quand il rencontrait quelques fonctionnaires ou commerçants qu'il connaissait vaguement, il l'accueillait par ces mots « Comment allez-vous, célèbre docteur ?» Puis, s'il était en compagnie de quelqu'un, il ajoutait « Je vous présente un phare, un bienfaiteur de l'humanité. » Bien qu'il ne pût atteindre ce qu'il avait rêvé, il voulait être digne de l'idéal de sa jeunesse et, comme si une force supérieure l'avait investi de cette fonction, se poser en défenseur de ces hommes qui, eux, l'avaient atteint. Il parlait des génies avec une pieuse admiration. Pour certains noms propres, Zola, Hugo, Vallès, il avait une prédilection à cause de leur consonance. Au passage des hommes politiques, il criait bruyamment son enthousiasme. D'ailleurs, c'était en toutes les circonstances qu'il manifestait. Il éprouvait un besoin d'intervenir partout, cela d'une manière mi-sérieuse, mi-naïve. Ce fut ainsi qu'un jour, il faillit être expulsé d'un cirque où il avait conduit Nicolas. Un nageur s'était laissé enfermer dans une cage de verre pleine d'eau. Au moment où il était entré, Alexandre avait retenu sa respiration. Suffoquant au bout d'une minute et voyant le nageur toujours sous l'eau, il s'était mis à crier à la salle oppressée « Assez ! Assez ! C'est un meurtre !» Son rêve était alors d'être directeur d'une importante entreprise commerciale. Chaque mois, il parlait avec le même feu d'une nouvelle affaire. Tantôt, il s'agissait de mines d'amiante en Corse, tantôt d'un produit qui remplacerait le charbon, le papier, la pierre, tantôt d'un journal d'hôtelier sur lequel figurerait le nom de tous les voyageurs, tantôt encore d'une nouvelle graisse végétale. Mais tous ces projets n'avaient jamais de suite. Il avait beau courir les rues avec des échantillons, des prospectus, des cartes de visite, personne ne le prenait au sérieux. Il voyait trop petit et trop grand à la fois. À peine amorçait-il une affaire qu'il était en même temps directeur et garçon de bureau. La fortune de Louise fondait, mais il ne s'en rendait même pas compte, certain qu'il était qu'un jour il réussirait. Ce qui le distrayait le plus était d'inviter à déjeuner des demi-fous, les patrons de ces boutiques nouvelles que l'on ne devine pas, commerçants aux rideaux de leurs magasins, à la peinture fraîche des murs, à mille riens, des maniaques, des illuminés. Il les faisait parler, les poussait à des excentricités pour étonner sa femme.
Sa fierté était que Louise joua, après le repas, du piano. « Elle est musicienne », avait-il prévenu. Pourtant, Alexandre commençait à se rendre compte que jamais il n'arriverait à quelque chose. Pour le remonter, Louise disait parfois à table avec tristesse « Mais père est encore jeune, il va se remarier avec une Américaine. » Il secouait la tête. C'était bien fini, il ne croyait plus en lui. Ses forces le trahissaient. Chaque jour, il recevait des traites qu'il ne pouvait payer, des avis d'huissier, des lettres écrites sur un ton sec. Il n'avait plus d'espoir qu'en le jeu. Il passait des nuits à jouer, sans parler, l'attention portée uniquement sur ses cartes. Il toussait tout le temps et n'avait plus d'appétit. L'indolence de Nicolas l'affectait profondément. Son dernier désir, faire de son fils l'homme qu'il aurait voulu être, il fallait qu'il abandonnât également. Il passait avec indifférence devant des gens avec qui, la veille, il s'était longuement entretenu. Le mal qui couvait en lui éveillait ses sens. Toutes les jeunes filles qu'il rencontrait, il les saluait d'un large coup de chapeau. Maigri, méconnaissable, il fit venir au commencement de l'automne 1916 un médecin. Celui-ci lui ordonna de partir aussitôt pour les Indes. Il faisait pourtant encore quelques projets, mais sans force, se contentant de rêver d'une maison dans le midi de la France. Pour qu'il ne fût pas seul dans un sanatorium, Louise loua une villa. Elle le veillait jour et nuit. À cause du diabète, on ne pouvait le soigner. Il était perdu. Déjà, il commençait à divaguer. Par les fenêtres ouvertes, on apercevait, s'élevant au loin, au-dessus d'une pente de neige, les pics des montagnes qui se découpaient sur un ciel d'un bleu solitaire et pur. Il demeurait allongé toute la journée. Quand la nuit tombait et que, dans le silence immense de la montagne, cet homme tremblant de fièvre, dont la chaleur tourmentée et la faiblesse contrastaient avec la puissance de la nature sauvage et calme qui l'environnait, balbutiait encore des désirs confus et des projets insensés. Louise éprouvait une telle détresse qu'elle devait le quitter brusquement pour aller sangloter dans une pièce voisine. Un mois après, le 7 novembre, Alexandre mourait à l'aube, à cette même aube qu'il avait vue tant de fois se lever. Après la mort de son mari, Madame Aftalion décida de quitter Genève, qui lui était devenue odieux, et d'aller se fixer à Nice. Elle acquitta toutes les dettes contractées par son mari, réalisa ce qui restait de sa fortune et, au milieu de l'hiver, partit avec son fils. Nicolas vécut alors absolument livré à lui-même. Sa mère était indifférente à tout ce qu'il faisait. Il ne voulut pas continuer ses études. Pas une seconde, elle ne songea à l'en empêcher. Il avait alors 17 ans. Aucune discipline ne réfrénait ses désirs. Il se levait à 10 heures du matin, flânait des journées entières. Pour ne pas faire de cuisine, ni prendre de bonne, Madame Aftalion déjeunait dans une crèmerie où, à midi, Nicolas allait la retrouver. Il ressemblait à ce Lazare Bogdanov dont les parents, avant la Révolution russe, avaient exploité les plus importants puits de pétrole de la région de Bakou. Précipité de la richesse dans la gêne, ce Lazare passait ses journées à énumérer ce qu'il avait possédé, englobant dans ses biens ceux de ses parents, de ses frères, des firmes concurrentes, du pays tout entier. De toute cette abondance, il ne pouvait croire qu'il ne restait rien. Au contact des hommes luttant pour gagner quelques francs, il lui apparaissait qu'il n'avait pas su jouir du faste de jadis. Il souffrait d'être leur semblable et de ne pouvoir montrer, autrement qu'en parole, que le luxe qu'il désirait tant lui était familier. La légende de sa vie était noyée dans la réalité. À présent, il fallait qu'il se défendît contre cette foule qui le frôlait dans les restaurants, dans la rue, partout. Bien que Nicolas n'eût point connu l'opulence de Lazare, il aimait à raconter les soirées que donnaient ses parents, en embellissant, puisque personne n'était à même de le contredire. Madame Aftalion, elle, voyait avec terreur le peu d'argent qu'elle possédait diminuer chaque jour. La peur de l'avenir et l'absence d'Alexandre la poussèrent à renouer avec ses parents et amis. À chaque fin d'année, elle leur écrivit. 6 ans s'écoulèrent ainsi, durant lesquels elle dépensa les derniers milliers de francs qu'elle possédait. Ce fut alors qu'elle se décida à gagner Paris. Nicolas, espérait-elle, trouverait une situation en cette grande ville. Elle vendit les meubles de son appartement et réalisa ainsi une vingtaine de mille francs. Sous sa dictée, Nicolas écrivit à sa sœur Thérèse, mariée depuis avec le secrétaire de M. Perrier, pour lui demander l'hospitalité. Une semaine après, les Astalion recevaient une lettre assez froide dans laquelle Mme Coquerel disait qu'elle serait heureuse de la revoir, sans pourtant faire la moindre allusion à Nicolas. Ce fut alors que Louise et son fils partirent pour Paris.